Voilà, rebonjour, bonsoir. Il me revient la charge, mais surtout le plaisir de présenter Manu Gomez. Manu Gomez est artiste, il est peintre, sculpteur et cinéaste, et puis aussi producteur indépendant, parce qu'il a produit ses propres films. Il est également professeur associé à l'Université de Lille 3, où il anime et encadre les ateliers de cinéma d'animation. On doit à Manu Gomez à peu près une trentaine de films déjà, essentiellement des courts-métrages, à peu près deux longs-métrages, hein, Peccato en 1997 et Le Prince de ce Monde en 2008, si je m'en souviens. Voilà, quelques documentaires aussi. Alors, c'est un cinéaste extrêmement singulier, hein, pour au moins deux aspects. Le premier, c'est dans les thématiques qu'il traite. On a beaucoup écrit qu'il avait une série de thématiques récurrentes qui tournaient en gros autour du péché, de la religion, de l'érotisme et de la scatologie, donc des choses qui vont très bien ensemble. C'est qui en fait parfois des objets de débat, ces films. Et c'est vrai que certains de ces films heurtent les sensibilités des spectateurs. C'est par ailleurs un cinéma extrêmement cultivé, référentiel, à toute une série d'œuvres, parfois d'œuvres classiques, picturales ou littéraires. Et puis, du côté des techniques et du côté de la pratique même du cinéma d'animation, qui est donc l'essentiel de son travail, c'est un travail aussi d'une très grande originalité. Manu Gomez a à peu près essayé toutes les techniques possibles, imaginables, du papier découpé à la photographie, au dessin animé. Il a animé l'inanimable par excellence. On peut penser à Ubu et ses viandes mortes, par exemple, animées. Ou encore, il est quand même l'homme qui a réussi à animer un bloc de marbre. Donc c'est le plus grand des défis pour un animateur, sans doute. Voilà, je suis très content de pouvoir le présenter et puis de voir ses dernières productions, puisqu'il nous présente deux de ses derniers films, et puis aussi une série de travaux d'étudiants qu'il a encadrés. Je lui cède la parole.
Voilà, donc en deux mots, les deux films que vous allez voir ne sont pas du tout choquants. Hein. Ce sont des films, on va dire, on peut les catégoriser comme films expérimentaux, dans le sens où les références sont avant tout picturales. Et donc, je suis peintre et sculpteur, et donc, ce qui m'intéressait, c'était de passer de la deuxième dimension, qui était celle les deux dimensions qui sont celles du dessin, de la peinture, la troisième dimension, la sculpture, et la quatrième, qui est celle du temps et de l'espace, qui est en fait la définition du cinéma, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure. Et donc, l'intérêt, c'est de mettre en... de donner la vie, ou de donner en tout cas l'illusion de la vie à toute chose inerte. Donc on a parlé de Ubu, effectivement, en viande. La viande a été vivante, elle est morte. On lui redonne la vie par le biais du cinéma. Mais on lui donne en fait l'illusion de la vie, puisqu'on ne se prend pas pour Dieu, loin de là. C'est l'illusion. Ce qu'on voit sur un écran n'est pas réel. Quand on voit un homme et une femme, ce ne sont pas un homme et une femme, mais la représentation... L'illusion d'un homme et une femme, c'est comme la fameuse pipe de Magritte, ceci n'est pas une pipe, donc c'est la même chose. Et donc, les deux films, qui peuvent paraître relativement classiques, surtout le second, Le Grand Sablier, dont l'animation n'est pas très fluide, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime les prouesses techniques au niveau de l'animation, je travaille plus au niveau des matières et des couleurs. J'ai fait une série de dessins via Photoshop, que j'ai ensuite... J'ai refilmé mon propre écran d'ordinateur avec une vieille caméra 35 mm. Alors, c'est un peu biscornu, mais bon. C'est une sorte de mise en abîme d'utiliser des techniques contemporaines qui sont le graphisme visuel, le graphisme numérique, et puis utiliser une bonne vieille caméra des années 30. Dont le sujet est un sablier. Pourquoi le sablier ? Parce que c'est justement la référence même au cinéma, puisque c'est le temps, et c'est un objet qui symbolise le temps et le mouvement. Le temps, évidemment, puisqu'il calcule le temps, et le mouvement, parce qu'on doit le retourner constamment pour le faire fonctionner. Et puis, le second, Arthur et Vincent, c'est un sujet qui m'intéresse également en tant que peintre, puisque ce sont les similitudes, le parallèle qu'il y a entre Arthur Rimbaud et Vincent Van Gogh. Ils viennent tous les deux de la grisaille du Nord, ils s'en vont vers la lumière du Sud, lumière qui va les consumer, d'ailleurs. Ils sont nés quasiment à la même date, ils sont morts tous les deux au même âge. Et donc voilà, il y a un rapport entre ces deux artistes maudits, en quelque sorte. Voilà, donc ensuite, je voudrais quand même montrer quelques travaux d'étudiants. Alors, je leur ai donné un squelette et je leur ai demandé de le faire marcher. Donc, c'est intéressant de voir quand même que les petits films que vous allez voir qui font à peu près 10 secondes chacun, ont été réalisés quand même par des gens qui n'ont aucune notion du cinéma, Et ils ont donc donné la vie à cette chose inerte qui était un squelette dessiné. Et donc, je crois que si l'on peut faire marcher un personnage, on peut quand même lui faire pas mal de choses. C'est quand même l'ABC de la dimension. C'est un peu comme quand Jésus a dit à Lazare, lève-toi et marche, c'est la même chose, en quelque sorte. Donc, si on peut faire marcher quelqu'un, on peut lui donner la vie, en quelque sorte. Donc, vous verrez, je n'ai pas touché à leur animation. Il y a énormément de défauts. Et j'y ai mis une petite musique pour que ce soit plus agréable à l'œil. Et j'ai évidemment mis la danse macabre de Gamy Saint-Saëns, ça me paraissait assez évident. Voilà, donc si vous avez des questions, espérons que ça ne durera pas trop longtemps, parce qu'on doit retourner à Bruxelles et à Liège. Et voilà. Mais je suis évidemment, je suis là pour répondre à vos questions.
C'est pas la première fois que dans tes films, on te voit, on voit ta main avec le pinceau, parce que si je ne m'abuse, c'est bien toi qui oui. peint à chaque fois. Et j'ai bien l'impression que dans tes films, cette main qui vient peindre n'a absolument rien à voir avec cette main qui viendrait faire le dessin du bonhomme, du fantoche de Fantasmagorie pour l'animer. J'ai plutôt l'impression que c'est le rapport que tu peux entretenir, toi, avec la matière picturale fixe toi, en tant que cinéaste d'animation. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que le fait de te montrer en tant que peintre, c'est-à-dire de montrer ta main, parce que tu pourrais très bien, et d'ailleurs tu le fais aussi, tu pourrais très bien ne pas rendre ta main visible. Est-ce que tu ne dis pas quelque chose de ton rapport de peintre
Oui,
à
certainement, mais il y a également un rapport avec ce que Émile Kohl a fait, sans aucun doute. On montre clairement que ce n'est pas de la magie, mais que c'est bien un être humain qui est derrière et qui fait un travail tout simplement artistique. Lorsqu'on a projeté les premiers films, les gens se sont enfouis en criant, en voyant des images s'avancer vers eux. Donc là, quand on met la main, on dit attention, ce n'est qu'un film, voici la main de celui qui est en train de le réaliser. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, oui, puisqu'il s'agit d'un peintre, il est bien de voir la main. C'est aussi une référence, mais à contrario, avec le film de Clouzot, Le mystère Picasso, où là on ne voit pas la main, on voit juste le dessin qui apparaît, mais on voit l'artiste, donc on voit l'artiste mais pas la main, ici on voit la main mais pas l'artiste. Ce sont des références qui m'intéressent et qui m'amusent. Et puis ça démystifie aussi tout simplement le cinéma d'animation. Voilà. Je rappelle que ces étudiants n'ont absolument aucune notion en cinéma, et encore moins en animation. Enfin, je parle de la pratique, bien entendu. Et donc, c'était intéressant de... pareil pour le logiciel Photoshop, donc que je les ai initiés au logiciel Photoshop. Et grâce à ce logiciel, il y a un des outils qui permet de faire de l'animation maintenant. Donc, ce n'est pas du tout un logiciel d'animation que l'on a utilisé. Et comme vous l'avez vu dans mes films précédents, j'aime travailler de façon très artisanale sans pour autant remettre ou refuser les techniques nouvelles. Mais vu les moyens dont on dispose, que ce soit à l'université ou chez moi, on peut aujourd'hui, avec peu de moyens, faire des choses.
Manu, si le fait d'enseigner les rudiments, les fondamentaux de l'animation depuis quelque temps déjà à des étudiants qui n'ont pas de formation pratique, est-ce que ça peut avoir une influence sur ton travail de création, sur ton travail d'artiste? Ce retour aux fondamentaux, cette nécessité de maîtrise des fondamentaux.
Ça aura probablement à un moment ou à un autre, ou de façon consciente ou inconsciente, une influence, bien entendu. Moi, je travaille de cette façon-là, donc c'est pour ça que j'enseigne de cette façon-là, tout simplement. C'est clair que... on a vu tout à l'heure des films de Cole, de Blackton. Je ne suis pas loin de ce que faisaient ces gens-là il y a maintenant plus d'un siècle. Hein. Et donc, oui, moi, je Bien sûr, je ne peux pas dire que je l'ai été dans les films, puisque les films que j'ai faits, je les ai faits avant de commencer à enseigner, puisque c'est la troisième année que j'enseigne. Enfin, que j'enseigne, que je donne un cours de pratique d'animation, entendons-nous bien, il y a des éminents spécialistes. Je ne suis pas théoricien, je suis juste un praticien. Et donc, en tout cas, moi, je trouve ça épatant, hein, pour des gens qui n'ont aucune notion. Et ce n'est pas le goût du morbide de leur avoir donné un squelette, parce qu'un squelette, c'est effectivement le personnage le plus nu qu'un squelette, on ne peut pas le trouver. Donc, à partir d'une base aussi primaire, aussi simple, on peut non seulement bien voir comment fonctionne une marche, puisque là, il n'y a pas de vêtements pour le cacher. J'espère, en tout cas, que mes étudiants m'influenceront dans mon travail futur. Ça, c'est évident. Oui. Et que ça crée des vocations. En tout cas, il y a déjà quelques-uns. Je vois qu'il y a quelques-uns de mes étudiants, notamment en master. Je n'ai pas passé les travaux des masters. Je n'ai pas pu. Mais je ferai une projection avec les prochains travaux. Ceci dit, ils ont fait ça, c'est uniquement en premier semestre, hein, donc je veux dire en quelques mois.
Oui, faut le préciser, c'est sur un très court laps de temps.
C'est un très court laps de temps, et puis c'est uniquement le premier semestre. Donc l'étape suivante, c'est imaginer une petite histoire en fonction toujours d'un squelette qui marche, qui traverse l'écran de gauche à droite, de profil. On ne travaille pas la 3D, on ne le retourne pas, on ne vient pas face à l'écran. C'est un personnage qui traverse une première fois l'écran, et puis il revient une deuxième fois dans un décor, dans d'autres situations. Comme par exemple le clown que l'on a vu, où le gars a forcément déjà des notions. Le but est de faire des petits films d'ici la fin de l'année, puis passer au logiciel de montage, de post-production pour les années suivantes, etc. Mais pour un début, je trouve qu'ils sont assez doués. Oui. Parce que ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même assez magique. Pour des gens qui, ils ont souvent été très étonnés de voir, c'est ça la magie du cinéma d'animation, c'est quand même, on travaille sur une base qui est inerte, qui est immobile, à l'inverse du cinéma de fiction, où on voit les personnages en mouvement autant derrière la caméra que sur l'écran, sauf dans certains cas d'effets spéciaux, mais en animation, c'est pas du tout le cas. La notion de temps est complètement bafouée, et on peut travailler pendant 3 heures pour un résultat de 2 secondes, donc le mouvement, on ne le voit pas, on ne le voit qu'après lors de la projection. Et c'est toujours un plaisir et un étonnement de voir que, après avoir travaillé plusieurs semaines, ils voulaient absolument voir, quand ils ont tous vu leur personnage marcher, forcément, comme des enfants, comme des gosses. Moi-même, je suis encore étonné. Je sais comment ça fonctionne, mais à mon âge, quand je vois encore les résultats, je suis toujours étonné. C'est la magie du cinéma d'animation, effectivement. Parce que le rapport à l'image n'est pas pareil que le rapport avec l'image de fiction, bien évidemment.
Oui, de les voir tous les uns après les autres, c'est un dispositif intéressant parce qu'on voit la multitude de singularités de cette marche qui pourtant est assez simple, comme tu le dis. Hein,
Il n'y en a pas une qui est pareille. Pourtant, entre nous, ils ont tous essayé de faire une marche classique. Donc... ce sont les défauts qui font la richesse du personnage. Dans ce cas-ci, après, il faudra qu'ils maîtrisent leurs défauts, mais en tout cas leur technique. Mais ce qui fait la différence entre les films faits par des machines et les films faits par des êtres humains, c'est justement le défaut qui fait l'humain. Dans énormément de films aujourd'hui, faits avec des techniques extrêmement évoluées, on ne voit plus le défaut. Ce qui est absolument aberrant, c'est qu'on crée des programmes qui créent des défauts sur les images tellement elles sont nettes aujourd'hui. Hein. C'est absolument hallucinant. On y rajoute des petites traces de doigts sur les fausses matières en 3D, puisqu'elles ne sont plus en 3D. Enfin, elles ne sont plus en 3D, c'est-à-dire en relief. Donc, oui, c'est ce qui fait le charme de ce genre de petits films artisanaux, c'est qu'ils sont humains. Et je trouve ça épatant.
En tout cas, c'est ce que tu défends.
Oui, tout à fait.
Bien. Est-ce que, entre-temps, il y a des questions qui ont émergé dans vos esprits ? Non ? Alors, je conclue Ce sera une conclusion rapide, parce qu'une conclusion forcément à la volée. Je vais rester là, si vous me permettez, parce que finalement, vous me voyez tous, vous n'êtes pas très nombreux. Je suis très heureuse de la manière dont cette journée s'est déroulée. C'est toujours un peu un coup de poker de faire se rencontrer les pensées des artistes et les pensées des chercheurs, notamment parce qu'on s'aperçoit, en tout cas du côté des chercheurs, ce manque de lien qu'il peut y avoir entre deux mots qui sont chers à Patrick Barrès, entre recherche et création. Et on a de plus en plus envie, non seulement de créer ces liens, mais on a surtout de plus en plus envie de poser la question théorique du rapport de ces deux choses que sont la création et la recherche. En tout cas, moi, j'ai l'impression, à l'issue de cette journée, que on réussit, quelle que soit la l'hétérogénéité, quelle que soit la richesse des matériaux utilisés, des techniques utilisées, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à dessiner une certaine forme d'identité de l'animation, des œuvres animées, qui a à voir avec une image qui est toujours en train de se faire et qu'on pourrait rapporter à cette notion d'invention qui est si importante, mais aussi en ce que l'invention est une découverte. Et on le voit bien avec... ça m'a paru évident avec les travaux donc de Laura Hainaut avec Hugo Gaz, de Jeannie Guilloux et de Laurent Pernot, autant qu'avec les travaux qu'on a présentés, qui ont été présentés lors des interventions, il me semble qu'il y a ce lien entre une image qui toujours se fait parce qu'elle fait émerger quelque chose et parce qu'elle invite aussi le spectateur. C'est pas tant dans l'interactivité, mais pas uniquement, parce qu'elle invite le spectateur à inventer lui-même, c'est-à-dire à découvrir lui-même ce qui peut émerger de l'image, de l'animation. Donc voilà, moi je suis parfaitement heureuse de cette journée parce que j'ai l'impression que le lien a pu se faire dans une réflexion de ce que ça peut signifier une image d'animation, pas seulement le cinéma d'animation, mais aussi l'animation appliquée à des installations, à des performances, comme on le verra tout à l'heure, et à des films de cinéma. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout et d'avoir assisté à cette journée d'études. Merci beaucoup. Et merci aux intervenants encore une fois.
Et merci à Jessie pour la journée.